Je ne sais pas si vous avez voyagé pendant ce temps de vacances. En tout cas, bonjour à chacun, pour ceux que je n'ai pas vus. Une bonne année également pour chacun, comme l'a dit Daniel, avec la grâce de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez voyagé ces quelques jours. Peut-être c'était des courts voyages, peut-être c'était dans la région. Nous, on a fait 1500 km en voiture, et puis on a fait presque 2000 km en train. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous avez aussi... Est-ce que vous avez déjà visité une grande ville que vous ne connaissiez pas? Quelqu'un a déjà fait ça? Oui? Vous êtes déjà allé visiter? Non? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous avez été perdu dans cette ville. À Dublin, on avait été une fois et j'avais trouvé ça super. On était là avec nos cartes à l'époque, on n'avait pas encore le GPS. Et puis, il y a un monsieur très gentil qui est venu nous dire: vous êtes perdu, est-ce que vous voulez que... Qu'est-ce que vous cherchez comme... Et ce matin, je me suis dit, spirituellement, où est-ce que nous en sommes? Non seulement individuellement, mais également en tant qu'Église. Vous savez, c'est important de savoir où on est, où on se trouve. Parce que si on ne sait pas où on est et le chemin qu'on a déjà fait, alors on a toutes les chances de tourner en rond. Vous êtes d'accord? Il n'y a rien de... pour moi, de plus insupportable de ne pas savoir où je suis et de tourner en rond. Ça, c'est terrible. Et ce matin, je voudrais vous proposer d'ouvrir le GPS spirituel, biblique, et puis de faire un point de là où nous en sommes, aussi en tant qu'Église. Peut-être certains sont dans une impasse, l'impasse de ne pas savoir où aller, l'impasse du découragement. D'autres sont sur des boulevards, certains sont sur les autoroutes avec le pilotage automatique. Tout va bien, pourquoi on se pose cette question? On sait où on va, on est là. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. En réalité, il n'y a que Dieu seul qui sait exactement où on va aller pour 2024. Qui sait déjà ce qu'il va faire le 31 décembre 2024? Où on sera? On ne sait pas, hein. Vous savez? Ouais, moi non plus. Je propose un texte, et je bénis Dieu pour la pensée qu'ont eue les musiciens, parce que j'ai été beaucoup travaillé par ça. Et je vous invite à... On va lire dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 18. Le texte de base, c'est les versets 41 à 46. Il est question ici du prophète Élie, du roi Akab, mais on va lire le texte. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Il dit, après ces événements, on va voir lesquels, Élie dit au roi Akab: « J'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire. » Le roi Akab va manger et boire. Élie monte sur le mont Carmel. Là, il s'incline jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur: « Monte et regarde vers la mer. » Le serviteur monte, il regarde et dit: « Mais il n'y a rien, quoi. » Donc il va faire ça pendant 7 fois. Élie lui dit: « Bon, t'es monté, t'as rien vu, c'est pas la peine de continuer. » Élie lui dit: « Retourne. » Tu vois rien, retourne. La 7e fois, le serviteur dit: il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est gros comme un poing. Elle y répond, monte et dit au roi Akab: attelle tes chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Israël. Le Seigneur remplit Élie de force. Alors, il attache ses vêtements pour partir, il court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. La pluie arrive, Élie entend le bruit et il va bientôt la voir. Et quand on parle de pluie, quand on parle de la pluie naturelle, eh bien on parle également de vie. Sans pluie, sans eau, c'est la mort. Vous êtes d'accord? La pluie représente la vie. Et la vie, c'est Dieu qui nous la porte, c'est Dieu qui nous la communique, C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, afin que nous puissions bénéficier de cette vie éternelle. Alors, le contexte ici de ce passage, on voit Akab, donc c'est l'histoire qui se passe durant les 350 années de le royaume divisé, royaume d'Israël au nord et Juda au sud. Et on voit que tous les rois qui se sont succédés vont être évalués aux yeux de Dieu, non pas sur leur capacité politique, militaire, sociale, mais ils vont être évalués selon des critères du respect et de la crainte de Dieu. Cette capacité à honorer Dieu. Et voilà que Élie, comme Élisée, comme d'autres prophètes, que ce soit dans le royaume du Nord ou dans le royaume du Sud, vont être poussés par l'Esprit pour aller dire au roi, tu es sur le bon chemin, tu as le GPS biblique qui est bien adapté, ou attention, tu es en train de faire fausse route. Et c'est ce qui se passe. Il est dit, vous relirez tranquillement, 1 Roi chapitre 16, chapitre 17 et chapitre 18, et on voit que Akab devient roi. Et la Bible me dit que lorsqu'il devient roi, c'est la 38e année du règne d'Asa, roi de Juda, et ce qui va caractériser Akab, c'est quoi ? C'est cette capacité à mettre Dieu de côté. Il va construire des temples à Baal. Il va construire des poteaux à Akéra. Et il va provoquer, la Bible dit, dans 1 Roi chapitre 16 et au verset 33, il est dit dans la parole de Dieu qu'il va provoquer la colère de l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Ça, c'est un palmarès. Et dans le mot hébreu, c'est un mot assez fort qui signifie pas seulement irrité, mais affligé, indigné, provoquer la colère, provoquer ce trouble intérieur en disant que Akab est en position d'autorité que Dieu lui a donné et pour conduire le peuple dans son appel. Quel est l'appel du peuple de Dieu ? C'est d'être en relation avec l'Éternel et c'est d'être aussi un témoin parmi les nations. Et voilà que, au lieu de faire cela, il y a d'autres dieux qui prennent la place. Il va prendre des mauvaises décisions. Et voilà qu'Élie, de la part de Dieu, va venir. Il est dit dans 1 Roi 17, versets 1 à 7. Il est dit qu'il y a un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad. Et il vient dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Il vient dire à Akab, en gros, « Quelque part spirituellement, tu t'es éloigné du Dieu véritable, du Dieu de la vie. » Et voilà que physiquement, ce qui va se passer, c'est que le ciel va être fermé. Et va il y avoir une sécheresse. La sécheresse, ça met en danger les hommes, les bêtes, mais également, ça met en danger toute la vie en réalité. Et voilà que la conséquence de ce rejet de Dieu va amener la sécheresse. Et quand on continue, voilà que, ça c'est un peu pour le contexte, à un moment donné, dans 1 Roi 18, au verset 1, bien des jours vont s'écouler et le peuple est dans la sécheresse. Est-ce que quelquefois ou quelque part, on peut vivre aussi des fois des sécheresses ? Est-ce que dans ce monde, il n'y a pas des sécheresses spirituelles ? Est-ce qu'il n'y a pas ce désir ? Vous savez, quand on a été dans la rue ou qu'on témoigne, et plus peut-être avec les jeunes, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était l'inverse, mais il y a une soif de réelle spiritualité, une soif réelle de savoir si véritablement Dieu existe. Une soif réelle, je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est le mieux dans ce monde que d'avoir des temps où on se réunit ensemble, où on dit à Dieu, mais prends la place du roi. Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui vaut le mieux ? On peut avoir tout l'or du monde, on peut avoir tous les diplômes, on peut réussir socialement, on peut tout faire, et ça c'est bien. Mais si Dieu n'est pas notre Dieu, si Christ n'est pas notre Sauveur, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, si on n'a pas cette relation, vous savez, il y a des fois des moments de désert, hein. Des fois il y a des moments où on se pose des questions, où on est en conflit, on est en combat, on a des difficultés. Et je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est vraiment le mieux ? Moi, j'aime revenir dans la présence de Dieu. Alors, vous allez dire, la présence de Dieu est toujours là. Hein. La seule différence, c'est que des fois, on la sent pas forcément. Mais de lui laisser la place. De lui laisser la place. Qu'est-ce que Dieu a à dire ? Qu'est-ce qu'il me dit dans ma réalité ? Qu'est-ce qu'il nous dit en tant qu'Église ? Qu'est-ce qui est mieux que la présence de Dieu ? Et que 2024 soit pour nous, en tant qu'Église, un temps où on va monter davantage dans la présence de Dieu pour que nous puissions partager cette grâce autour de nous. Alors, à un moment donné, ça dure, 1 Rois 18, et voilà qu'il est dit qu'au cours de la troisième année de sécheresse, l'Éternel va parler à Élie en ces termes. Et il va dire, « Va trouver Acab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » Ça, c'est une bonne nouvelle, non ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de nous qui sont désespérés et qui ont besoin d'entendre ce message ? N'est-ce pas ? Est-ce que nous-mêmes, peut-être, on a besoin d'entendre ce message ? Peut-être on a été dans des temps de sécheresse, dans des temps où, bon, on est venu à l'église, on a... Mais intérieurement, est-ce que nous sommes rassasiés ? Est-ce que nous sommes satisfaits ? Est-ce que nous sommes heureux ? Toi, j'ai déjà dit ici, partagé avec un pasteur de Lausanne, ils étaient venus, on avait mangé ensemble avec son épouse, on avait parlé ministère, pensée de Dieu, plein de projets, superbe. Et il m'a posé une question qui m'a vraiment percuté, et il m'a dit, mais est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu es heureux avec Dieu et dans ce que tu fais ? Est-ce que tu es heureux ? Rencontrer un autre pasteur aussi, qui a beaucoup de responsabilités, et qui me dit, mais vraiment je suis renouvelé, je suis heureux de ce que je fais, il croule sous des responsabilités. Est-ce que nous sommes heureux, renouvelés ? Vous allez me dire, mais j'ai cette épreuve, j'ai telle épreuve, j'ai telle épreuve, j'ai telle épreuve. On m'a fait ça. Comment tu veux que je sois heureux ? Les épreuves... On ne va pas les nier, on ne va pas les mettre de côté. C'est une réalité. Mais lorsque je reviens dans la présence de Dieu, lorsque la pluie revient, lorsque l'Esprit de Dieu revient, lorsque des puits nouveaux sont débouchés, à ce moment-là, on voit la vie d'une autre perspective. Et véritablement, ici, le peuple de Dieu, à ce moment-là, avait besoin que la pluie revienne. Et c'est parti de où ? C'est parti de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont essayé de construire des choses, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il nous dit, je crois, en tant qu'Église. Depuis un moment, je crois. Et il nous dit, voici que je veux envoyer... Un renouvellement. Je ne sais pas si vous le percevez, je ne sais pas si vous le sentez. Et ce matin, c'était super. Je me suis dit, tiens, il ne savait pas. Hein. Même Sabine ne savait pas ce que j'allais prêcher. Et j'ai trouvé très, très intéressant. Même Laurent, j'ai dit, vous avez reçu quelque chose ce matin ? Moi, il me parle d'eau. Je dis, très, très bien, très bien. C'est une bonne idée. Ça confirme. C'est intéressant. Et c'est ce que Dieu dit, je crois, à l'Église, non pas... pour qu'on se fasse seulement du bien, mais pour qu'on puisse entrer dans l'appel que Dieu a pour nous, comme il a pour toutes les églises, à savoir être une bénédiction pour les nations. Amen. Je crois que Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Ce matin, je sentais ça, je dis, mais ce n'est pas seulement quelques-uns, mais nous sommes appelés, là où nous sommes, à être des témoins de Dieu. Alors, Dieu dit cela à Élie, et avant que nous arrivions à 1 Roi 18, et dans ces versets où d'un seul coup il y a l'orage qui tombe, il y a un épisode qui se passe au préalable. Vous savez, Akab, il dit, mais on a besoin d'eau. Il va voir Abdias, son intendant, et il lui dit, mais parcours le pays, va voir s'il y a de l'eau quelque part. Abdias, c'est le chrétien, c'est un chrétien en réalité. Dans le sens où c'est quelqu'un qui craint Dieu. Abdias, c'est l'intendant du roi, mais il est dit qu'il avait caché des prophètes de l'Éternel et que c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui respectait Dieu. Et voilà qu'il va, il va faire sa recherche, il va regarder, et voilà qu'il va rencontrer le prophète Élie. Et Élie va lui dire, je veux rencontrer le roi Akab. Et Abdias lui dit, mais ça ne va pas, si tu le rencontres, il est fou de rage parce que tu as prié pour qu'il n'y ait pas la pluie. Et puis Abdias dira, de toute façon, l'Éternel. Élie dira, de toute façon, l'Éternel m'a dit de faire ça, alors je vais le faire. Et il y a cette rencontre avec le roi. Et lorsqu'il rencontre le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ta faute. Il y a le malheur dans le pays. Il renverse, hein. Vous savez, l'ennemi, il est fort pour renverser les rôles. Mais Élie, qui est rempli vraiment de la présence de Dieu, va lui dire, faut pas renverser les rôles. S'il y a le malheur dans le pays, c'est parce que tu as rejeté Dieu. C'est parce que tu adores les idoles. C'est parce que tu adores Baal. Et ça a amené une sécheresse. À chaque fois que l'on rejette Dieu dans une société, à chaque fois que dans nos vies, on met Dieu de côté, ça amène une sécheresse spirituelle. Et voilà qu'Élie a le courage de venir et de confronter Akab. Mais lorsqu'il confronte Akab, après, Dieu l'envoie près du torrent, près d'un torrent où il va être quelque part à l'abri, parce qu'il aurait pu y passer. Et quand il revient voir Akab, avant que la pluie ne tombe, il va confronter les prophètes de Baal. Il va confronter les prophètes, les faux prophètes. Et il y a cette fameuse confrontation que, pour la plupart, nous connaissons. Il y a cette confrontation entre la puissance de Dieu et la puissance de l'ennemi. Et nous savons que la puissance de l'ennemi, même si c'est une puissance, eh bien Dieu vient et la renverse dans le nom de Christ. Nous pouvons et nous avons cette autorité. Amen. Nous ne sommes pas obligés de subir les pressions de l'ennemi, mais Dieu nous donne cette autorité pour nous élever contre la puissance de l'ennemi. Amen. Parce que ce n'est pas notre force, mais Dieu est avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Non pas avec notre propre force, mais nous pouvons nous lever ce matin et de dire que tout esprit de dépression, d'incrédulité, de religiosité, tout ce qui m'empêche d'avancer avec Dieu, maintenant je prends autorité et je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut diviser, tout ce qui veut m'empêcher d'entrer dans mon appel, dans le nom de Jésus-Christ, je refuse ces puissances. Et je crois la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on se sent super fort, hein. Ça veut juste dire que nous savons que Dieu, notre Dieu en nous, est fort. Et c'est lui qui se lève. Parce qu'Élie, quand il affronte les puissances et les faux prophètes, il ne va pas le faire avec sa propre force. Si Dieu n'intervient pas, il était cuit. Il y serait passé. Mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu lui a dit, à ce moment-là, il s'est levé et ses faux prophètes ont été éliminés. L'ennemi a été vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit qu'à la croix, Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a cloué l'acte qui nous condamnait. Il a renversé, il a vaincu l'ennemi à la croix une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être sauvés. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous lever et nous pouvons témoigner de sa part. Amen. À l'issue de cette confrontation, à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé ? D'un seul coup, le peuple a dit, mais on réalise devant cette puissance, la puissance de l'Éternel, on réalise que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu, c'est lui que nous voulons servir. C'est lui que nous voulons servir. Je me souviens que lorsque j'entendais l'Évangile, bon, ça paraissait intéressant. Mais quand j'ai vu des vies transformées autour de moi, quand j'ai vu la guérison, quand j'ai vu que Dieu avait mis dans mon cœur cette certitude de l'éternité, à ce moment-là, j'ai dit « waouh ». C'est plus simplement une histoire d'il y a 2000 ans, c'est une réalité. La Bible nous dit que la parole de Dieu, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pas simplement des paroles, une belle histoire, c'est une puissance de vie. Amen, c'est une puissance de vie que Dieu veut nous donner. Alors c'est bien, en réalité, le peuple, d'un seul coup, se sont dit, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et à partir de ce moment-là, seulement à partir de ce moment-là, lorsqu'on traite les idoles, lorsqu'on traite tout ce qui a besoin d'être traité, d'un seul coup, Dieu dit, je vais envoyer la pluie. C'est bien ce que Dieu nous dit, hein, depuis le Covid, non ? C'est pas ça ? Est-ce que Dieu ne nous parle pas depuis le Covid ? Je sais que c'est loin, je sais qu'on ne veut plus en entendre parler. C'est vrai. Mais il faut se souvenir qu'ici, la sécheresse, elle a duré 3 ans. Il faut juste se souvenir que le Covid, il a à peu près duré 3 ans également. Oui. Et quand on s'est retrouvé dans une situation surréaliste, je me souviens que le premier dimanche du Covid, la salle ici était noire, on avait le droit à 5 personnes, et on a commencé à prêcher devant les caméras, on ne voyait personne. Et on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? D'un seul coup, tout s'est arrêté. Et on a été, par la grâce de Dieu, on a traversé cette sécheresse. Mais en même temps, Dieu nous a parlé en tant qu'Église de dire, mais on n'est pas sur l'autoroute, en pilotage automatique, les choses peuvent se compliquer. On peut être sur une route de montagne, en plein brouillard, et on a besoin de réaliser que ce que l'on vit, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, tranquille. Vous savez, on a qu'à simplement, on peut aller... bouger dans les pays où il y a la persécution, et on se rend compte que ben, c'est pas acquis en fait. Et voilà que Dieu, en tant qu'Église, nous a dit mais cherchez-moi, que vous puissiez prendre du temps dans la repentance. Prenons du temps pour que ce ne soit plus, je dirais, une Église culturelle, le christianisme culturel, où on est dans un club. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais globalement, où on vit des réunions, où on vit des temps où on est béni, on attend que finalement les orateurs ou l'équipe de louange ou l'équipe d'accueil nous sourient et puis qu'on soit au bénéfice de la présence de Dieu et qu'après on part toute la semaine. Voilà qu'on a réalisé que Dieu nous appelait à vivre la présence de Dieu tous les jours. Et notamment lorsqu'on était coincé à la maison, pendant le télétravail, pendant toute cette période-là, d'un seul coup, on a réalisé où j'en suis par rapport à ma foi. Où j'en suis. Quand la sécheresse est arrivée, le peuple de Dieu avait toujours cet appel d'être dans cette relation avec Dieu et d'être des témoins. L'idolâtrie et la sécheresse les a détournés de leur plan initial. Quel est l'appel qu'il y a sur cette église ? Nous sommes appelés à être des témoins, à être un phare pour cette région. Nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit, en vérité. Nous sommes appelés à être une église ressource, non pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que Dieu nous appelle à cela. C'est pas pour rien qu'on est implanté ici dans l'ouest lausannois. C'est pas pour rien que Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné tous les dons et les talents qu'il peut y avoir dans cette salle. Dieu nous appelle à être une église organique. Dieu nous appelle à prendre soin les uns des autres, à nous appeler, à nous encourager dans la foi, à nous stimuler, à dire mais continuons ensemble. En février 2022, le Seigneur nous a parlé en tant qu'Église, d'une manière très précise, en nous disant, et je vous relis le texte, parce que c'est intéressant, c'était dans Ésaïe 43, où il est dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » D'un seul coup, on a ça. Moi, je me souviens, c'était très étonnant. On a vécu quelque chose d'assez fort à ce moment-là. On s'est dit, mais d'un seul coup, Dieu nous parle en plein Covid, en nous disant, voilà qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Février 2022. Et j'étais loin de penser que ce changement allait également nous toucher avec Sabine. Il y a un chemin nouveau, il y a comme quelque chose de nouveau. Et quand on voit le texte, effectivement, on se dit, mais comment est-ce possible de vivre une nouvelle saison, quelque chose de nouveau, mais pourquoi ? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Dieu nous a donné une nouvelle nature. Et Dieu nous a donné un nom nouveau. Dieu nous a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il y a, dans le texte grec, il y a néos et kainos. Et néos, c'est juste quelque chose de nouveau dans le temps. Mais kainos, c'est quelque chose de nouveau dans la nature. On n'est pas obligé de vivre la même chose aujourd'hui par rapport à demain. Amen. Et voilà que dans ce temps-là, Dieu nous a amenés à regarder toutes les choses qui pourraient nous empêcher d'entrer dans cette nouvelle saison. Vous vous souvenez, on a prié pour ça. Hein, on a prié pour par rapport au non-pardon, par rapport aux souvenirs du passé qui nous réconfortent, par rapport à toutes sortes de choses, tout ce qui était léthargie, plus de zèle, plus d'enthousiasme, fait de plus amener des nouvelles personnes. C'est comme si c'était les conséquences de la sécheresse. Et on a eu aussi ce temps avec le prophète Hervé en tant que conseil. En janvier, c'était il y a un an, janvier 2023, et nous on était un peu contents parce qu'on s'est dit, bon, on est sur la bonne voie. Et il nous dit, mais vous êtes un peu comme l'église de Sardes, où quelque part, vous passez pour être vivante, mais vous êtes morte. Et là, on a pris ça en pleine face. Et il a parlé d'un certain nombre de choses, difficulté à se repentir, fatigue physique, spirituelle, plus de soif, manque d'être renouvelé par le Saint-Esprit, manque d'amour pour Christ. L'Église tourne en rond, le risque aussi d'abandonner notre assemblée, et puis les responsables, on a besoin aussi de nous demander pardon, parce qu'on n'a pas toujours su déléguer, on n'a pas toujours su être à la hauteur de la tâche. Et quand on a entendu cela, on s'est dit, mais Seigneur, on veut recevoir ce que tu es en train de nous dire. Parce qu'on est dans cette nouvelle saison. Parce que c'est toi qui as raison. Parce que, quelque part, si on ne voit pas assez de conversion, si on ne voit pas assez du baptême du Saint-Esprit, si on ne voit pas assez de transformation dans notre ville, si on ne voit pas assez de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos cultes et à l'extérieur, c'est pas parce que, Seigneur, tu es en vacances, mais c'est parce que moi, je ne suis pas à la hauteur. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Et vous savez, il y a un risque, vous savez, que notre héritage protestant, évangélique, a fait que dans l'histoire, parce qu'on a été marginalisé dans l'histoire, historiquement, ça a développé quelque part, une force, une résilience quelque part une détermination. Les protestants, au XIXe siècle, des fois ont fermé les temples. Pour les évangéliques, quand il y a eu des réveils, ils étaient persécutés. Ils étaient mis à l'écart. Et ceux qui continuaient, c'est ceux vraiment qui étaient déterminés. Et notre histoire, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été résilients, qui étaient pleins de foi, qui ont persévéré, qui ont même risqué leur vie. Et c'est notre héritage. Et c'est l'héritage des évangéliques. On a visité Berlin récemment. Et on peut ne pas oublier. C'est important de ne pas oublier, par exemple, des gens comme Bonhoeffer, ce pasteur, qui a pris le risque de lutter contre le nazisme. Il a été pendu en avril 1945. Parce qu'il a été résilient, parce qu'il a eu le courage, il a eu la foi. Et on a vu, ce que je ne savais absolument pas, il y a aussi un pasteur luthérien, je crois que c'est en 1976, on a vu ce tableau, et ce pasteur, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais devant, quelque part, les attaques anti-Dieu du système communiste est-allemand, il s'est immolé. C'est terrible, terrible comme histoire. Et ça a tellement marqué en disant, mais il a réagi contre tout ce qui allait contre la liberté religieuse. Je ne dis pas, voilà. Mais il y en a qui ont été jusqu'à là. Et ça a fait réagir, ça a fait réfléchir. Et certains pensent que ça a contribué à ce que le régime est-allemand et qu'il y ait cette réunification. Il y a des gens, et Luther à l'époque a eu le courage au risque de sa vie. Et il y a le sociologue historien Sébastien Fatt qui fait une analyse intéressante et qui dit, mais on a toujours cet héritage, mais depuis 45 ans à peu près, il y a la culture du bien-être, il y a la peur du risque, il y a la peur de l'effort, il y a la peur de prendre des risques qui a même touché les chrétiens. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce que l'on peut faire pour prévenir du risque, ce que ça a développé, c'est la peur de sortir de notre zone de confort. C'est juste une analyse sociologique. Mais on peut faire une analyse spirituelle en disant, moi je me rends compte que dans ma vie, quand c'est trop confortable, je ne dis pas qu'il faut chercher l'inconfort, je ne dis pas qu'il faut chercher d'être dans des difficultés, elles viennent toutes seules. On n'a pas besoin de les chercher. Mais on a besoin, comme dirait l'apôtre Paul, de se préparer à la pensée de souffrir pour la cause de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à tous les niveaux de notre vie chrétienne, à un moment donné, il y a un risque à prendre. Quand on se convertit, il y a le risque de dire oui et de croire que Christ est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Le risque de perdre ma réputation. Le risque de croire Dieu plutôt que moi et de croire plus Dieu que mes stratégies. Et en tant qu'Église, on a besoin, nous avons besoin, j'ai besoin de prendre ce risque de croire Dieu et de chercher Dieu et de prier Dieu et de sortir et de témoigner de la part de Dieu avec la force qu'il me donne, la force qu'il renouvelle en moi et en nous. Voilà que, juste pour terminer, je voudrais revenir à ces derniers versets. Ce qui nous a aussi beaucoup encouragés, c'est un petit peu un feedback. À un moment donné, dans tout ce que Dieu nous disait durant toutes ces dernières années, à un moment donné, j'étais un peu découragé. Je me suis dit, mais voilà ce que Dieu dit, voilà ce que je ressens, ce que nous ressentons. Et je dois avouer qu'à un moment donné, j'étais là, je dis, bon, soit t'es mauvais, soit c'est pas la pensée de Dieu. Franchement, j'étais un peu découragé. Et voilà qu'en ce mois de mai 2023, on était avec Daniel et on va chercher notre frère Yinka. Et on arrive à l'aéroport et à Yinka, évidemment, on n'avait rien dit du tout. On va le chercher, il sort, il vient juste de sortir, hein, et il nous dit, J'ai la pensée pour l'Église. C'est un temps de transition, c'est un temps de changement. Et hein, Daniel était là. Et on s'est dit, waouh. Ah ouais, avant de dire bonjour. Et moi, j'étais là, on s'est regardé. Je dis, ok, donc il a prêché ce qu'on a d'ailleurs marqué sur les orientations de sujets de prière depuis septembre. Donc tous les sujets de prière, les obstacles à surmonter, les ennemis à renverser. Et puis, on a vécu quelque chose de très fort que je voudrais juste rappeler. On était dans le bureau, mon bureau, juste avant le culte, et on a prié avec lui. Il y avait quelques anciens, je crois qu'il y avait Christian. Et à ce moment-là, d'un seul coup, j'ai senti la puissance de Dieu. Et lui, il a été saisi avec cette pensée que Dieu allait nous visiter d'une telle manière que l'évangile allait rayonner à 360 degrés. Et que les hommes, les femmes, les jeunes vont être touchés. Alors on sait qu'on déjà en témoigne, déjà on évangélise. Déjà on a fait Turning, les cafés croissants, déjà. Mais voilà que la puissance de Dieu était là. J'étais là, je dis, waouh. Et il est venu, il a prêché ce qu'il a prêché. Je vous encourage à réécouter. Et c'était vraiment un encouragement. Parce que je me dis, mais on est sur la bonne voie, quoi. On est sur la bonne voie. La pluie revient. Amen. Et on est conscient que dans l'Église, quand on parle comme ça, il y a les élis, ceux qui entendent la pluie, ceux qui la voient. Et des fois, c'est souffrant. Parce que quand on l'entend et quand on la voit, on dit, mais c'est super, ça arrive. Élie, il y a des Élie dans l'Église, hein, l'esprit prophétique, qui montre à l'avance. Et Élie ne va pas dire, bah, je suis le seul à voir ça, quoi. C'est nul. Élie va envoyer son serviteur. Il va d'abord dire à Akab, voilà ce que je vois. Va manger, va boire. Maintenant que on a traité les idoles, tout ce qui prenait la place de Dieu, maintenant la pluie va pouvoir tomber. Et donc, il y a des serviteurs d'Élie. C'est un peu notre histoire quand on a dit, on va prendre du temps de prière, on va chercher Dieu ensemble. On va avoir tous ces temps de prière. Et le serviteur, il n'est pas monté parce qu'il a vu ou qu'il a entendu. Mais il est monté parce que Élie lui a dit et qu'il a confiance dans ce que Dieu a communiqué à Élie. Et voilà qu'il y a des frères et sœurs qui sont montés. On est montés ensemble sur la montagne, dans la présence de Dieu. Et des fois, on a vu des choses et puis des fois, on n'a rien vu, hein, non ? Dans ce qu'on voit, dans ce que Dieu nous appelle à être. Et ce qui est intéressant avec ce serviteur, c'est qu'il ne s'est pas découragé. Il y a comme une équipe, il y a un état d'esprit d'équipe. Et j'en profite pour remercier tous ceux et celles qui servent dans l'Église, tous ceux et celles qui prient, tous ceux et celles qui accueillent, tous ceux et celles qui servent la Sainte-Seine, tous ceux et celles qui s'impliquent dans les ados, les enfants, la sono, j'en oublie. Merci pour cela. Parce qu'on a besoin de chacun. On a besoin de chacun. Et chacun a son importance aux yeux de Dieu. Parce qu'Élie est resté en bas, mais il a eu besoin de son serviteur. Élie devait peut-être être plus âgé, serviteur plus en forme. Il est monté sur la montagne, il a regardé. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Et quand il est monté, une fois, deux fois, vous imaginez ? Bon, déjà pour Élie aussi. Hein. Élie, ça devait être un peu plus facile, parce que lui, il voyait dans l'esprit. Il savait que c'est bon. Dès qu'on voit dans l'esprit, on avait partagé par rapport à notre départ, c'était bizarre. Je voudrais juste rappeler qu'on n'a pas cherché à partir. On n'a pas fait de demande. On avait cette pensée de cette nouvelle étape. Et voilà qu'en septembre 2022, je reviens ici. Et pendant 3 mois, intérieurement, mais j'ai été travaillé comme jamais, quoi. J'étais là, je dis, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sentais ce changement. À un tel point qu'on a, on l'a partagé avec Patrick et Liane. En décembre, on a dit, mais on ne sait pas, mais on sent qu'il y a un changement qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été confirmé par 7 serviteurs différents qui ne savaient strictement rien et qui ont dit, votre temps ici est terminé. C'était impressionnant, vraiment impressionnant. Pas un seul, mais 7 de différents horizons, sans savoir, votre temps ici est terminé. Et on se dit, tiens, il y a une étape de changement. Et quelque part, c'est un petit peu ce qu'on ressentait. On ressentait cela, mais on ne savait pas comment ça allait faire. Mais de la même manière, on ressent ce temps de changement pour l'Église. On sent, au-delà de l'aspect d'une nouvelle équipe, et le président parlera certainement au nom du Conseil, au temps voulu, mais on perçoit, on sent de la même manière qu'il y a un changement, une transformation de mentalité, transformation de vie. Quelque part, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et on a besoin d'être intentionnel pour y entrer, intentionnel pour renverser ces poteaux d'Akera. On a besoin de cela, on a besoin. Si on ne le fait pas, on ne va pas vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour cette Église. Pas pleinement, et ça serait dommage. Et voilà, il y a aussi Akab, lui qui n'entend pas, qui ne voit pas, et qui reste en bas, il ne monte même pas sur la montagne. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que la bénédiction qui va couler dans ce pays d'Israël et qui vient d'en haut, ne va pas être que pour Élie, ne va pas être que pour les serviteurs d'Élie, mais ça va être pour tout le monde. L'enjeu, je voudrais quelque part nous laisser avec cela, c'est de dire si nous continuons à chercher Dieu, continuons à l'obéir, continuons à faire du ménage dans nos vies, continuons à faire du ménage, prions pour que dans l'Église, les bonnes pensées, la pensée de Dieu soit, notamment pour le leadership. Prions pour cela, c'est notre affaire, nous sommes concernés, c'est notre assemblée. Mais la finalité de cela, c'est pour que la pluie coule et que cette région puisse être bénie, puisse découvrir le salut de Christ. C'est ça la finalité. La finalité, c'est qu'un maximum puisse découvrir l'amour de Dieu, puisse être réconcilié avec Dieu. Amen. Ça, c'est la finalité. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Peut-être, je ne sais pas s'il y a... Et je voudrais simplement que nous amener dans cette prière, là où nous sommes, de dire, quel que soit là où nous en sommes, qu'on soit dans une impasse, qu'on soit dans un boulevard, que nous entendions cette pluie, ou que nous la voyons, ou que nous ne la voyons pas, là où nous en sommes, simplement à notre place, qu'on puisse dire à Dieu, me voici, dans ce début d'année 2024. Seigneur, je suis d'accord pour faire ta volonté. Je comprends ce matin que tu as besoin de moi. Je comprends que ce n'est pas l'affaire que de quelques-uns. Ce n'est pas juste l'affaire de quelques-uns, mais c'est l'affaire de chacun. Et que tu sois converti depuis 3 jours, depuis 50 ans, tu as besoin de toi. Et si tu ne connais pas encore la grâce de Dieu, Dieu t'appelle à lui donner ton cœur ce matin. Mais simplement, Dieu ne force pas. Dieu n'impose pas, mais il nous montre, il nous éclaire, il nous dirige. Et là où nous sommes déjà, d'ores et déjà, les yeux sont fermés, et qu'on puisse répondre au Seigneur, qu'on puisse répondre à Dieu, lui disant, Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté, je veux comprendre ce que tu veux faire, et je veux me lever pour voir ta gloire. Que nous soyons un peuple d'adorateurs, que nous soyons un peuple, une église ressource, que nous soyons une église organique, où on prend soin les uns des autres, que nous puissions laisser la place. Simplement, parlons au Seigneur ce matin et que nous puissions lui dire, me voici Seigneur, me voici. Que ta volonté qui est dans le ciel soit faite sur la terre. Amen.